en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, le sujet que je traite aujourd'hui dans le cadre du thème général choisi par le Président Guillaume pour l'année 2016 est extrêmement vaste, même en se concentrant sur les seuls aspects juridiques. Après avoir rappelé les objectifs de la régulation financière et les conséquences qu'a eu pour cette régulation la modernisation des acteurs et des marchés, j'analyserai la manière dont la régulation financière a réagi à cette mondialisation et présenterai en conclusion une esquisse de bilan de la régulation financière internationale. Je précise que je ne traiterai pas de la régulation financière dans le cadre de l'Union européenne, qui se situe dans un cadre institutionnel et juridique très particulier et vise un degré d'harmonisation sans équivalent sur le plan international, celui d'un marché unique intégré. Il y a plusieurs définitions de la notion de régulation en français. Pour les besoins de cet exposé, je retiendrai une définition large, utilisée par la plupart des praticiens aujourd'hui, celle de l'ensemble des normes encadrant des activités ou des acteurs financiers dans un objectif d'intérêt général, définition qui rejoint celle de l'expression anglaise « financial regulation » et inclut donc la réglementation stricto sensu. Parce qu'elle poursuit des buts d'intérêt général, la régulation financière est généralement d'origine publique, émanant soit de l'État, soit d'une ou plusieurs autorités dotées par l'État de prérogatives de puissance publique, que l'on qualifie d'autorité de régulation. Elle peut toutefois prendre d'autres formes, en particulier celle d'une autorégulation, dans laquelle les normes imposées aux acteurs sont définies par des organismes représentant ces acteurs, dans l'intérêt du bon fonctionnement du secteur concerné, et avec, généralement, l'assentiment de la puissance publique. On en trouve, et surtout, on en a trouvé de nombreuses manifestations dans le secteur financier. La crise financière de 2008 a toutefois conduit à un recul de l'autorégulation au profit de la régulation publique, l'autorégulation ne prenant pas suffisamment en compte les objectifs d'intérêt général. Les activités financières présentent par rapport aux activités économiques en général des spécificités qui affecte la manière dont la régulation de ce secteur s'exerce, que ce soit dans un cadre national ou international. Longtemps assez simple et limité à des activités liées directement aux échanges économiques, en particulier les paiements, les activités financières se caractérisent depuis plusieurs décennies, et singulièrement depuis l'apparition des produits dérivés dans les années 1980, par l'importance de l'innovation. L'innovation financière est généralement hybride, en ce sens qu'elle est souvent progressive et se traduit par la création de produits ou de services qui conservent certaines caractéristiques de produits existants, qu'elle ne rend pas généralement obsolètes, mais qui subsistent aux côtés des produits ou services nouveaux. En outre, à la différence de l'innovation technologique, elle ne peut généralement pas être protégée par un brevet et est donc aisément copiable par des concurrents, ce qui limite dans le temps l'avantage compétitif que l'innovateur peut en tirer et incite donc à innover en permanence afin d'obtenir un avantage compétitif. Enfin, l'innovation financière entretient avec la réglementation une relation singulière. L'un de ses objets est fréquemment de contourner la réglementation. Pour ne prendre qu'un exemple, l'innovation financière s'est mise à l'œuvre dès l'adoption en 1988 du premier ratio de solvabilité internationale des banques, le ratio dit Cook, du nom du président du groupe de travail ayant proposé ce ratio. Celui-ci étant défini par rapport aux actifs inscrits au bilan, les banques ont très rapidement recouru à diverses techniques en vue d'alléger leur bilan et donc leurs besoins de fonds propres réglementaires, grâce notamment à la titrisation. Ces opérations ont très vite été qualifiées d'opérations de découcage ou décooking dans le langage, dans le jargon des financiers. La réglementation engendre ainsi des innovations visant à la contourner, ce qui conduit souvent à une nouvelle règle pour maîtriser cette innovation, et ainsi de suite. Aussi, la régulation financière, nationale ou internationale, doit-elle, pour être efficace, perpétuellement s'adapter pour tenir compte des innovations financières, dont le rythme s'est accéléré avec les produits dérivés et l'ingénierie financière. Elle a presque toujours, malheureusement, un temps de retard et doit en tout cas être modifiée très rapidement. En outre, son efficacité implique aussi que les règles soient formulées d'une manière suffisamment générale pour s'appliquer à une réalité financière mouvante. Quels sont les objectifs de cette régulation financière ? Celle-ci a pris des formes diverses selon les États, en fonction principalement du degré de développement de leur système financier et de l'histoire des crises financières que celui-ci a traversées. Si le rythme de mise en place de la régulation, son contenu et la manière de procéder ont été très divers, on peut en revanche constater que les objectifs généraux de la régulation financière sont aujourd'hui largement les mêmes dans la quasi-totalité des États à économie de marché. L'objectif sans doute le plus important est celui d'assurer la sécurité du système financier dans ses différentes composantes, en particulier de celles qui jouent un rôle central pour la stabilité et le fonctionnement du système. Cet objectif justifie la réglementation de l'exercice des professions financières, y compris pour certaines d'entre elles, leur surveillance par des autorités spécialisées, ce qu'on appelle aujourd'hui la supervision. Les acteurs les plus importants, banques, assurances, infrastructures de marché, sont soumis à des règles prudentielles destinées à assurer leur capacité à faire face à leurs engagements et leur résilience en cas de difficulté. Plus récemment, et surtout après la crise financière de 2008, cet objectif de sécurité a été explicitement élargi pour inclure celui de la stabilité financière afin de protéger les systèmes financiers nationaux et le système international contre des crises dites systémiques. Un deuxième objectif important est celui d'assurer l'intégrité des marchés financiers, condition indispensable à la confiance des acteurs et au bon fonctionnement des marchés et du système financier dans son ensemble. À cette fin, la régulation impose depuis un demi-siècle des normes de comportement aux acteurs des marchés, notamment des normes de transparence, afin que l'ensemble des acteurs dispose d'informations exactes, sincères et non trompeuses. Ceci est indispensable pour permettre la formation loyale des prix et le bon fonctionnement des marchés. La régulation réprime donc différents types d'abus de marché, courants sur les marchés au XIXe et dans la première moitié du XXe siècle, comme l'illustrent les romans de Balzac ou de Zola. Plus récemment, la régulation s'est attaquée à d'autres types de comportements répréhensibles, relevant d'une utilisation du système financier à des fins criminelles, le blanchiment, puis le financement du terrorisme, ou encore la corruption. Enfin, un troisième objectif étroitement lié au précédent est la protection des consommateurs de services financiers. Cet objectif est le fondement de différentes catégories de règles, règles de protection des actifs confiés aux acteurs financiers par leurs clients, dépôts d'espèces et de titres dans les banques, actifs confiés aux assurances dans le cas de contrats d'assurance vie en particulier, ou encore obligations de ségrégation des actifs imposés aux dépositaires ou obligations de conseil à l'égard des clients. La régulation financière encadre l'activité des acteurs et des marchés financiers de manière variable, dans la mesure utile à l'accomplissement de ces objectifs. Mais l'appréciation portée sur la manière d'atteindre ces objectifs, sur les activités ou acteurs à réguler et sur l'intensité de la régulation a beaucoup varié selon les pays et les époques. Si la plupart des pays s'accordent aujourd'hui sur les objectifs généraux de la régulation financière, des différences parfois importantes subsistent sur les moyens de les atteindre et sur le degré de régulation approprié. Un facteur très important de différenciation est le degré de confiance accordé aux mécanismes de marché pour assurer le bon fonctionnement des marchés financiers. Les États-Unis, après avoir connu une période de régulation très intense après la crise de 1929 et jusque dans les années 1980, sont ainsi ensuite passés par une période qualifiée de dérégulation jusqu'à la crise financière de 2008, essentiellement due à l'influence des théories favorables à ces mécanismes de marché. Venons-en à la mondialisation financière. Celle-ci n'est pas nouvelle, mais elle a pris une ampleur considérable à partir des années 1970, qui ont vu un recours croissant aux marchés financiers pour le financement des activités des entreprises. Les marchés ont alors connu une croissance considérable et ont contribué à financer la croissance économique qui a caractérisé ce que l'on a appelé les 30 Glorieuses. Après la longue période de protectionnisme qui a suivi la crise de 1929 jusque dans les années 60, les États ont libéralisé à la fois les échanges économiques et, plus lentement, les mouvements de capitaux. C'est en 1971 que les États-Unis abandonnent la parité dollar-or et en 1974 qu'ils lèvent les restrictions à l'exportation des capitaux que le système de Bretton Woods imposait pour assurer la stabilité des taux de change. Dans leur sillage, les pays développés, puis un nombre croissant de pays en développement, ont suivi cette orientation. La disparition de l'Union soviétique et du bloc communiste a joué dans le même sens. Il en est résulté un accroissement considérable des flux financiers internationaux, bien supérieur à celui des échanges de biens et de services. Ces flux représentent aujourd'hui plus de 3 000 milliards de dollars chaque jour, alors que le commerce annuel de biens et de services est de l'ordre de 14 000 milliards de dollars par an, soit moins de 5 jours de transactions sur le marché d'échange. Les acteurs financiers ont accompagné cette évolution et se sont de plus en plus internationalisés, à partir des années 1990 en particulier, qui ont vu l'émergence de très grandes banques internationales implantées et conduisant des activités dans de très nombreux pays. Ainsi, la valeur des transactions bancaires internationales est passée de 6% du PIB mondial en 1972 à près de 40% au début des années 2000, et les grandes banques internationales détiennent une part croissante d'actifs autres que ceux du pays de leur siège. Parallèlement, les banques ont considérablement diversifié leurs activités et sont devenues multimétiers, offrant des services de banque de détail, de gestion d'actifs et de banque de financement et d'investissement opérant sur les marchés boursiers et autres marchés, notamment de gré à gré. Les instruments financiers aussi se sont diversifiés et mondialisés. En particulier, les produits dérivés apparus dans les années 1980 ont pris une extension mondiale, notamment pour couvrir les risques de change, de taux d'intérêt, de défaillance d'une contrepartie, de variation des prix des matières premières, etc. Ces produits ont aussi été commercialisés comme des instruments de spéculation, offrant aux investisseurs des effets de levier sans comparaison avec les rendements des instruments financiers classiques, au prix cependant de nouveaux risques. Les investisseurs ont suivi le mouvement. Pour ne prendre qu'un indice, le capital des sociétés cotées est ainsi détenu aujourd'hui à plus de 40% par des non-résidents dans les pays développés, alors qu'il l'était à hauteur de 5 à 10% il y a seulement une trentaine d'années. La mondialisation financière a enfin été favorisée et accélérée par le progrès des technologies d'information et de communication. Ces progrès ont facilité la mise au point de produits dérivés grâce à la puissance de calcul des ordinateurs. Ils ont permis de traiter les opérations, y compris internationales, dans des délais toujours plus courts, atteignant aujourd'hui la nanoseconde, avec une sécurité suffisante d'exécution. Quelles conséquences cette mondialisation a-t-elle eu pour la régulation traditionnelle au niveau de chaque État ? L'emprise des États sur les acteurs et les marchés s'est affaiblie à mesure de l'internationalisation et de la capacité accrue que la libération des mouvements de capitaux et la technologie ont donné aux acteurs de déplacer leurs activités facilement pour choisir la juridiction jugée la plus favorable. C'est ce que l'on appelle l'arbitrage réglementaire. Le coût de la réglementation est en effet un facteur important de choix de localisation pour les activités financières. Et leurs caractéristiques leur permettent, sans doute plus qu'à d'autres acteurs économiques, d'organiser leurs activités ou de les déplacer de manière à choisir la réglementation la plus favorable, c'est-à-dire la moins contraignante et la moins coûteuse. La régulation financière est ainsi devenue un facteur d'attractivité, les autorités de régulation étant incitées à favoriser l'implantation des activités financières grâce à une régulation qualifiée de compétitive. Le risque majeur d'une telle concurrence entre régulateurs nationaux est évidemment celui d'une course vers le bas, ou le moins-disant. Un tel risque ne doit pas être exagéré, car la régulation la moins-disante sera peu attractive pour les acteurs qui cherchent un marché sûr et protecteur de leurs intérêts, en particulier la plupart des investisseurs. En détournant les investisseurs, on détournera aussi les émetteurs soucieux de leur réputation. Cependant, certains pays privilégient l'attractivité dans leur politique de régulation, ce qui fait peser des risques sur le système financier international, surtout lorsque cette priorité va jusqu'à offrir aux activités financières un paradis réglementaire qui va souvent de pair avec un paradis fiscal. Une régulation dominée par l'objectif de compétitivité n'est donc pas désirable. Le plus souvent, comme l'a dit un ancien président de l'AMF, Jean-Pierre Jouyet, les régulateurs nationaux se placent dans une dialectique compétition-coopération qui doit être savamment dosée et habilement gérée. Les activités financières sont largement immatérielles. Les instruments financiers ne sont plus représentés par des papiers, mais par des inscriptions en compte, dans des registres informatiques qui peuvent être tenus n'importe où et être déplacés très facilement. Les opérations transfrontières se sont multipliées et une même transaction peut faire intervenir plusieurs acteurs situés dans plusieurs juridictions différentes. La compétence des États étant traditionnellement fondée sur le rattachement au territoire, cette décomposition donne compétence à plusieurs États pour réglementer certains aspects de la transaction, mais réduit l'emprise de chacun sur l'opération dans son ensemble. Certains États ont réagi à ce phénomène en se reconnaissant compétence pour régir des activités économiques en fonction des effets que celles-ci peuvent avoir sur leur territoire. C'est la théorie des effets, apparue principalement en droit de la concurrence, mais encore controversée en droit international. Toutefois, même si un État est compétent en raison d'une activité exercée sur son territoire, d'autres États peuvent aussi être compétents sur les mêmes fondements, à raison d'autres activités concourantes à la réalisation d'une même transaction. D'où des risques de conflits de compétences qui peuvent avoir un effet négatif sur l'effectivité de la régulation. La mondialisation a enfin entraîné une interconnexion des activités et des marchés et un risque accru de contagion. Une crise financière peut maintenant se propager extrêmement rapidement à travers le système financier mondial. Ce phénomène, déjà présent il y a près de 100 ans au moment de la crise de 1929, s'est considérablement accru. La défaillance d'un acteur international important peut entraîner dans sa chute d'autres acteurs à travers le monde et retentir sur les marchés en quelques jours, notamment en provoquant une crise de cette confiance qui est à la base du bon fonctionnement des marchés financiers. Ainsi, la chute de Lehman Brothers en septembre 2008 a provoqué une crise de défiance généralisée dans les jours qui ont suivi. Les banques ne se prêtaient plus, les investisseurs cédaient à la panique. Non seulement une régulation financière nationale ne peut plus être efficace sans coopération internationale, mais cette coopération doit avoir pour objectif d'établir un cadre international cohérent afin de permettre une coopération efficace et de prévenir la survenance et la propagation des crises et d'en limiter les effets. En effet, une divergence significative entre les règles en vigueur dans les principales juridictions soumet les acteurs internationaux à des obligations incohérentes et les incite à échapper à ces contradictions en recherchant une organisation et une localisation de leurs activités leur permettant d'échapper aux règles les plus sévères. En supposant même que les acteurs financiers se soumettent aux règles en vigueur dans chacun des territoires où ils opèrent, sans chercher à optimiser leur implantation ou leur organisation, l'incohérence de telles règles nuit en tout état de cause au bon fonctionnement du système financier international, à la fois parce qu'elle empêche les acteurs de conduire leurs activités dans des conditions de saine concurrence, mais aussi parce qu'elle favorise l'apparition de risques pour la stabilité financière. La cause est donc entendue, la mondialisation financière impose une coopération entre autorités de régulation pour assurer l'efficacité de cette régulation et prévenir la survenance et la propagation des crises financières grâce à un cadre international cohérent. Cette coopération ne s'est pas organisée dans le cadre d'une organisation internationale classique pour différentes raisons. En premier lieu, les niveaux de développement et de sophistication du système financier varient considérablement selon les États et les principaux acteurs et marchés financiers ont longtemps été concentrés dans les principaux pays développés. Or, l'intérêt des États à coopérer dépend essentiellement du degré de sophistication, d'internationalisation et d'interconnexion de leur système financier. Associé à une coopération dans le cadre d'une organisation mondiale, les très nombreux États dont les acteurs et les marchés sont peu développés et peu sophistiqués réduiraient l'action de cette organisation au plus petit commun dénominateur, d'autant plus que la capacité des États les moins développés à participer utilement aux travaux serait nécessairement très limitée. Le second obstacle à la coopération dans le cadre d'une organisation mondiale est la manière dont la régulation financière est organisée au niveau national. En effet, la technicité de la régulation financière a conduit à répartir celle-ci largement en fonction des acteurs ou des marchés à réguler, banques, assurances, bourses. En outre, beaucoup d'États, notamment les plus développés en matière financière, ont délégué à des autorités de statut variable, mais jouissant d'une autonomie, le soin de réguler les activités financières, même si le législateur reste généralement compétent pour déterminer les principes applicables et si les ministères des Finances conservent souvent un rôle important dans le domaine normatif, par exemple sous la forme de l'homologation de la régulation édictée par les autorités de régulation sectorielles. Le partage des compétences est le plus souvent fonction de la distinction entre les acteurs à réguler et conduit ainsi à attribuer aux banques centrales la régulation des banques et à une autorité autonome la régulation des marchés financiers et des acteurs intervenant sur ces marchés, tandis qu'une autre autorité supervise les assurances. Mais il y a de nombreuses variations autour de ces distinctions. La diversité des autorités nationales de régulation rendrait donc beaucoup plus complexe le fonctionnement d'une organisation à vocation mondiale en matière de régulation financière. À défaut d'organisation mondiale compétente, plusieurs structures internationales de coopération ad hoc sont apparues au fil de l'histoire et surtout des crises financières, à l'initiative des autorités de régulation des principaux pays, et ont progressivement assumé un rôle de plus en plus important en cette matière. La Banque des règlements internationaux, créée en 1930 pour régler les modalités des réparations de guerre imposées à l'Allemagne par le traité de Versailles, est une organisation internationale qui présente la particularité de regrouper des banques centrales. Mais elle n'exerce pas elle-même de rôle direct en matière de régulation. Elle a été en fait conduite à héberger des activités touchant à la régulation financière au titre de sa mission consistant à favoriser la coopération entre banques centrales. La plus ancienne est le comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Ce comité a été créé en 1974 par les 10 principales banques centrales suite à la faillite de plusieurs banques en Europe. Il n'a pas de personnalité juridique propre et fonctionne sans formalisme avec le soutien financier de la Banque des règlements internationaux qui l'héberge et le fait bénéficier de ses privilèges et immunités, mais dont il n'est pas un organe. Ce n'est qu'en 2013, soit près de 40 ans après sa création, que le comité s'est doté d'une charte régissant son fonctionnement qui constitue largement une codification des pratiques antérieures. Sa mission est de promouvoir une coopération propre à renforcer le contrôle prudentiel et améliorer la qualité de surveillance des banques. Sa charte précise que le comité, je cite, « n'est investi d'aucune autorité supranationale formelle » et que ses décisions n'ont pas force exécutoire. Pour exécuter son mandat, dit la charte, le comité s'en remet aux engagements pris par ses membres. Ces engagements comprennent notamment celui de contribuer activement à l'élaboration des normes, recommandations et bonnes pratiques, à mettre en œuvre et appliquer les normes dans leur juridiction intérieure, selon le calendrier préalablement fixé par le comité, à se soumettre et participer aux examens réalisés par le comité pour évaluer l'application effective des normes, et enfin à agir dans l'intérêt de la stabilité financière mondiale et non pas uniquement dans l'intérêt national. Sont membres du comité non seulement des banques centrales, mais aussi d'autres autorités compétentes en matière de contrôle et de supervision des banques. À l'origine limité aux membres du G10, il comprend aujourd'hui des représentants de 27 pays, dont Hong Kong, et de la zone euro. L'absence de personnalité juridique du comité de Bâle ne l'a pas empêché de jouer un rôle de plus en plus important en matière de régulation bancaire, au point d'influencer celle-ci dans le monde entier, malgré sa composition encore très restreinte. Dès 1975, le comité adopte un document connu sous le nom de Concordat de Bâle, qui énonce des principes de supervision des groupes bancaires internationaux. Dans les années 1980, il élabore les premiers standards internationaux en matière de solvabilité, Bâle 1 en 1988, le fameux ratio Cook. En 1997, un document important énonce les principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace. En 2004, l'accord dit de Bâle II vise à permettre une couverture plus fine et plus complète des risques bancaires à la lumière de la pratique et des exercices de décooking dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans le domaine des marchés financiers, les régulateurs nationaux ont créé en 1983 une organisation internationale des commissions de valeur, OICV, IOSCO en anglais. Nonobstant son nom, cette organisation ne constitue pas une organisation intergouvernementale. Informelle jusqu'en 1987, elle s'est d'abord constituée en personne morale sans but lucratif de droit canadien, sur la base d'une loi du Québec, basée à Montréal, puis d'une association espagnole d'utilité publique, basée à Madrid, à laquelle une loi espagnole a accordé cependant un régime proche de celui des organisations internationales publiques. L'OICV regroupe non seulement les autorités publiques de régulation des marchés, mais aussi des organismes d'autorégulation et d'autres organismes intéressés à la régulation, y compris des organismes privés. Toutefois, seuls les membres qualifiés d'ordinaire, c'est-à-dire en pratique les régulateurs publics, participent au sein de l'organisation, aux organes proposant et approuvant les standards. L'OICV a pour objectif de permettre à ses membres d'échanger des informations en vue de développer les marchés et d'améliorer leur efficacité, de coordonner leur action pour faire respecter la réglementation financière et de mettre en œuvre des normes communes. Ces statuts précisent que les standards adoptés ne sont cependant pas contraignants et ne font naître ni droits ni obligations juridiques. À la différence des membres du comité de Bâle, ceux de l'OICV ne prennent formellement aucun engagement de mettre en œuvre les standards approuvés par celle-ci. L'instrument central de l'OICV, publié en 1998, énonce les objectifs et principes de la régulation financière. Il a été ensuite complété par de nombreux autres documents. Dans le domaine de l'assurance, un processus analogue de concertation entre régulateurs nationaux a conduit à la création en 1993 de l'Association internationale des commissions d'assurance à l'initiative de l'Association nationale des régulateurs des États-Unis, où la régulation de l'assurance est au niveau des États fédérés. À l'origine constituée sous forme d'une association de l'État de l'Illinois, elle a transféré rapidement son siège à Bâle au sein de la Banque des règlements internationaux en 1996, mais est restée une association, aujourd'hui de droit suisse, jouissant cependant d'une exonération d'impôts sur les revenus, ainsi que, par extension, des privilèges et immunités de la Banque des règlements internationaux qui l'héberge et lui prête son concours sous diverses formes. Elle en demeure toutefois distincte, comme le comité de Bâle. Les objectifs de cette association internationale sont de promouvoir une supervision efficace et cohérente de l'assurance, en vue de maintenir et de développer des marchés équitables, sûrs et stables dans l'intérêt des souscripteurs, ainsi que de contribuer à la stabilité financière mondiale. À cette fin, elle élabore des principes, standards et lignes directrices pour la supervision des marchés d'assurance, soutient la mise en œuvre de ces principes et standards et diverses formes de coopération entre superviseurs. Les statuts ne disent rien de la portée juridique des standards ou des engagements que prennent ses membres. Comme l'OICV, le comité de Bâle, et à la même époque, cette association a adopté en 1997 des principes de base en matière d'assurance. Si ces trois institutions regroupent sur une base volontaire des autorités de régulation des États les plus intéressés à la coopération internationale, on doit relever une différence importante entre le comité de Bâle d'une part et les deux autres d'autre part. Le premier ne regroupe, nous l'avons vu, que les banques centrales des 28 pays aux zones les plus développées en matière bancaire, alors que les deux autres instances sont ouvertes non seulement à l'ensemble des régulateurs des deux secteurs concernés, mais même à des acteurs privés intéressés. Elles comprennent donc de nombreux représentants des autorités de régulation des pays émergents. Cette différence est cependant très atténuée par le rôle prééminent joué dans ces deux institutions par leur comité exécutif à l'Association des commissions d'assurance ou leur conseil à l'OICV, toutes deux précédemment modestement dénommées comités techniques. La composition de ces organes est en effet très proche de celle du G20 et du comité de Bâle. Et il joue un rôle essentiel dans l'élaboration et l'approbation des standards soumis à l'adoption de l'organe plénier. C'est ainsi que les membres du G10 d'abord, puis du G20, ont pu assurer une certaine cohérence entre l'action normative des trois institutions et favoriser leur coopération. Les limites de cette approche sectorielle ont cependant été rapidement identifiées, en particulier pour l'efficacité de la supervision des conglomérats financiers apparus dans les années 1970-80, exerçant des métiers relevant des compétences des trois grandes catégories d'autorités de régulation. Cela a conduit à la création, dès 1996, à l'initiative du Comité de Bâle, d'un « joint forum » afin d'examiner les questions d'intérêt commun pour les trois comités, en vue d'assurer la cohérence globale de la régulation. Ce forum regroupe des représentants des trois catégories de régulateurs de 15 pays. Les instances supérieures de la coopération en matière financière. Les sommets du G5, devenus G7 puis G8, ont une vocation extrêmement large et ont occasionnellement donné des impulsions en matière de régulation financière. Mais ce rôle a rapidement été assumé par le G10, puis repris et considérablement amplifié à la suite de la crise de 2008 par le G20. Créé en marge du G7 de septembre 1999 à Washington pour faire place aux principaux pays émergents, le G20 est devenu en effet la principale instance de gouvernance économique et financière mondiale. À l'origine limité aux seuls ministres des Finances et gouverneurs des banques centrales de ces pays, il se réunit fréquemment maintenant aussi au niveau des chefs d'État et de gouvernement, lesquels adoptent des communiqués fixant notamment des priorités, voire des actions extrêmement précises aux différentes structures de régulation financière et économique mondiale. Cette transformation fait suite à une initiative du président Sarkozy fin 2008 et au premier sommet du G20 réuni à Washington en 2009. En consacrant l'importance de la régulation financière au niveau politique le plus élevé, le G20 lui a donné une impulsion et une dimension nouvelle. Le G7 avait créé en 1999 un forum de stabilité financière pour combler les lacunes de la régulation financière apparues lors de la crise asiatique de 1998. Ce forum regroupait les principales instances de coopération internationale en la matière, mais la crise de 2008 a mis cruellement en lumière les faiblesses de ce forum et de la régulation financière internationale. C'est pourquoi le G20, lors du sommet de Londres du 2 avril 2009, a transformé le forum en Conseil de stabilité financière avec un programme de travail précis, beaucoup plus vaste et ambitieux. Le Conseil de stabilité financière rassemble tous les régulateurs nationaux des pays du G20, d'Espagne, de Pays-Bas, de Suisse, Singapour et Hong Kong, les institutions financières internationales, Banque des règlements internationaux, FMI, OCDE et Banque mondiale, ainsi que les organismes internationaux producteurs de standards et de codes, les standard setters en anglais. Son objectif est de coordonner les actions des autorités nationales et internationales pour développer et promouvoir une réglementation et une supervision efficace du secteur financier. Il est chargé d'identifier et d'évaluer les vulnérabilités de ce système et de proposer les mesures nécessaires pour y remédier, de promouvoir et de coordonner les échanges d'informations et de publier des principes, recommandations et lignes directrices à destination des superviseurs nationaux. Bien que les statuts précisent que cette charte n'a pas pour objet de créer des droits ou obligations juridiques, elle comprend néanmoins un engagement formel des juridictions membres du CSF, notamment à favoriser la stabilité financière, à adopter les standards financiers internationaux, à soumettre le secteur financier à des examens par leurs pairs et à assurer un suivi de la mise en œuvre des standards. C'est qu'en effet, les instances de régulation internationale n'ont pas recouru à l'instrument classique en droit international pour établir des règles communes, c'est-à-dire au traité ou à l'accord international. Un tel instrument est en effet particulièrement mal adapté à cette tâche dans ce domaine. D'une part, la matière est particulièrement complexe et les différences de sophistication et de structures juridiques et financières, même entre pays développés, rendent très difficile l'adoption de règles communes. De surcroît, l'innovation étant particulièrement forte en matière financière, la probabilité que les règles adoptées deviennent rapidement obsolètes est très forte. Il n'est dès lors guère surprenant que cette approche n'ait même pas été tentée et que les institutions précitées aient adopté une approche pragmatique et très progressive et assez semblable de la régulation financière internationale. Ces institutions visent en effet à un équilibre entre l'objectif de coopération indispensable à l'efficacité de la régulation et le maintien d'une concurrence entre les acteurs, les marchés et les systèmes financiers, exprimés très souvent comme la recherche d'un « level playing field ». L'objectif est donc de faire converger le cadre réglementaire international et de renforcer la sécurité et la stabilité du système financier international grâce à l'établissement de standards financiers internationaux, pour reprendre une terminologie employée récemment dans la thèse de M. Bismuth. Que faut-il entendre par standard ? Ce terme est défini dans le dictionnaire de terminologie du droit international de Jules Badevant en 1960 comme le comportement moyen des États civilisés, par référence auquel on apprécie la correction du comportement d'un État dans la matière considérée. Les standards ont connu un succès particulier en droit international économique, en particulier au sein de l'OMC, et ont été utilisés, nous l'avons vu, pour la régulation financière. Le Conseil de stabilité financière définit les standards sur son site internet comme, je cite, « les principes, pratiques ou lignes directrices largement acceptées dans un domaine déterminé ». Les standards présentent une souplesse laissant aux autorités nationales une marge de liberté dans leur application. Cette souplesse facilite la transposition des standards dans des cadres juridiques différents et leur donne une vocation à l'universalité dépassant les seuls pays dont les représentants ont contribué à leur élaboration pour s'adresser à l'ensemble des autorités de régulation. Cependant, cette souplesse est variable suivant les instruments et le degré d'harmonisation recherché. Les principes généraux adoptés par le comité de Bâle, l'OICV et l'Association des commissions d'assurance ont vocation à l'universalité et traitent de sujets très variés qui ne se prêtent souvent guère à une véritable harmonisation. Ils sont donc formulés souvent en termes très généraux. D'autres standards visent au contraire à une harmonisation très poussée, en particulier les standards prudentiels. Ils sont rédigés en termes beaucoup plus précis et sont de plus en plus détaillés. Ainsi, les accords de Bâle I de 1988 ne comprenaient qu'une trentaine de pages, alors que Bâle II en comprend 370. Les standards financiers facilitent aussi la circulation internationale des produits, services et acteurs financiers, en servant de base aux procédures de reconnaissance mutuelle ou de reconnaissance d'équivalence administrées par les autorités nationales. Mais le recours à cette technique expose la régulation financière internationale à un risque important, celui que les standards ne soient pas suivis et transposés dans les États, ou le soient d'une manière différente d'un État à l'autre. Cela compromettrait non seulement leur utilité, mais aussi la disposition à coopérer des autorités de régulation. Pour prévenir ce risque, les instances de coopération ont progressivement élaboré un dispositif original. En premier lieu, comme on l'a vu, tout en soulignant que les standards ne sont pas juridiquement contraignants, les membres de ces instances se sont parfois néanmoins explicitement engagés à les mettre en œuvre. En second lieu, le comité de Bâle, puis l'OICV et l'Association des commissions d'assurance ont mis en place un dispositif de suivi de la mise en œuvre des standards, reposant sur un examen par les pairs et conduisant aujourd'hui à des rapports publics. Cette pression par les pairs peut être très efficace pour autant que les autorités de régulation concernées jouent le jeu, et que la pression résultant de la publicité donnée conduise les États, seuls à même de donner effet à ces engagements, à leur donner suite. L'expérience montre qu'un engagement politique au plus haut niveau est indispensable lorsque les standards en cause touchent à des intérêts économiques essentiels ou remettent en cause des structures ou des pratiques bien ancrées. Le G20 a intégré cette dimension à son action en demandant aux instances de régulation de lui faire régulièrement rapport, non seulement sur l'avancement de leurs travaux, mais aussi sur la mise en œuvre des standards. Le Conseil de stabilité financière lui-même assure un suivi et rend public depuis 2015 les principaux constats de ce suivi dans ses rapports au G20. L'impulsion donnée à la régulation internationale par les sommets du G20 qui ont immédiatement suivi la crise financière a été considérable. Le sommet de Washington annonçait ainsi 39 actions à conduire dans ce domaine sur un total de 47 annoncées dans le communiqué final. En donnant aux instances internationales des instructions claires et parfois très précises et en renforçant l'approche intersectorielle, afin notamment de mieux identifier et traiter les risques systémiques, le G20 a changé la donne. Près de 8 ans après le sommet de Washington, quels sont les résultats atteints ? Incontestablement, l'activité a été considérable et le champ couvert par les standards est maintenant très large. Cela étant, ces standards sont très inégaux. Seuls un petit nombre sont extrêmement détaillés et constituent des facteurs déterminants de la structure, du comportement et de la solidité des acteurs. Il en va ainsi en particulier des standards prudentiels des banques. Si la mise en place effective de ces standards prudentiels qui ont conduit aux accords dits de Bâle III en décembre 2010 a été délibérément prévue selon un calendrier très progressif, la pression des marchés a conduit les grandes banques internationales à devancer ce calendrier et leurs fonds propres ont globalement doublé par rapport à 2007. Un autre domaine où les progrès ont été notables est celui de l'échange d'informations et de la coopération entre autorités pour la supervision des acteurs. Portant sur des informations largement soumises au secret professionnel, l'échange suppose la levée de ce secret qui n'est possible que si la loi nationale le permet ou sur la base d'un accord international. De tels accords ont longtemps été passés sur une base bilatérale, principalement entre autorités des principaux pays. Des accords multilatéraux ont ensuite été conclus, notamment au sein de l'OICV, qui aujourd'hui lie plus de 100 régulateurs et sert de base à plusieurs milliers d'échanges chaque année. Parallèlement, les principales institutions financières internationales sont désormais supervisées par des collèges de superviseurs regroupant les principales autorités compétentes de plusieurs pays. Malgré ces progrès, les échanges restent insuffisants. Certains pays, et pas seulement ceux que l'on peut qualifier de paradis réglementaires, restent à l'écart. Dans d'autres cas, les échanges sont limités, soit par des réticences parfois motivées par le souci de protéger les acteurs nationaux, soit par la capacité de certaines autorités, car de nombreux pays ont encore des autorités faiblement dotées en ressources financières, humaines ou techniques. La régulation s'est attaquée à l'identification et à la réduction des autres facteurs de risque systémique, en particulier les produits dérivés. Une forte majorité de ces dérivés sont traités de gré à gré, et la connaissance de l'importance des positions des différents acteurs est très insuffisante. Le G20 a donc posé en principe que les dérivés susceptibles d'être standardisés devaient être compensés dans les chambres de compensation afin de réduire le risque de propagation de défaillance entre acteurs de marché. Il a d'autre part décidé la mise en place de référentiels centraux chargés de collecter des informations sur toutes les transactions sur dérivés et de mettre ces données à la disposition des autorités de régulation afin de leur permettre de détecter des foyers de risque. Ce chantier, toutefois, est encore en cours et se heurte à des difficultés importantes, car sa bonne fin implique une standardisation mondiale des dérivés et de leur reporting, qui est très complexe et progresse lentement. Dans d'autres domaines, les progrès sont aussi limités, comme sur le shadow banking, ou finance de l'ombre, où l'on est encore au stade du débat sur le périmètre des activités concernées. Enfin, si les principales réformes ont été mises en place dans la plupart des pays du G20, on constate parfois des différences sensibles dans les niveaux d'exigence réglementaire, tandis que l'extension des standards internationaux de la du G20 est très inégale, malgré les efforts entrepris pour convaincre tous les pays de se conformer à ces standards. Cette situation peut être imputée à différents facteurs. D'une part, le sentiment d'urgence généré par la crise financière s'est incontestablement affaibli, et l'impulsion politique avec lui. D'autre part, la tension déjà évoquée entre l'objectif de sécurité et de stabilité financière d'une part et la compétitivité et l'attractivité des acteurs et marchés nationaux fait déplacer le curseur entre ces deux catégories d'objectifs, mais ce déplacement ne se fait pas toujours dans le même sens et au même rythme. Certains pays ont adopté des normes plus strictes que les standards internationaux, d'autres ont fait l'inverse. Un autre sujet de préoccupation est celui de l'effet de l'avalanche de ces nouvelles règles sur les acteurs et les marchés financiers et leur capacité à répondre aux besoins de financement de l'économie réelle. Ces effets ne sont pas les mêmes selon la structure des systèmes financiers nationaux. Ainsi, en Europe, le financement des entreprises est assuré essentiellement par crédit bancaire, alors qu'aux États-Unis, il l'est très largement par recours au marché. En conséquence, le relèvement des exigences de fonds propres pour les banques, qui réduit la capacité de crédit de celles-ci, a nécessairement un effet plus important sur le financement des économies européennes que sur celui de l'économie américaine, toutes choses égales par ailleurs. A-t-on été trop loin dans la régulation? Ou, comme le soutiennent quelques économistes, est-on à la veille d'une nouvelle crise internationale faute d'avoir suffisamment encadré les acteurs des marchés qui seraient encore trop libres? Ma conviction personnelle est que si la régulation financière ne permettra pas d'éviter de nouvelles crises, les progrès considérables accomplis depuis la crise de 2008 ont renforcé la capacité du système financier international à prévenir de telles crises et en limiter les conséquences sur nos économies et nos sociétés. Je vous remercie de votre attention.